n'entendront plus les violons fleurir les chemins de chimère, ni pour les grilles des prisons pleurer la honte casanière, les tziganes ont fermé les tuiles où se fane la fleur des vents, les quatre horizons meurent d'ennui quand meurent les engoulevents. Adieu sanglots.
Bonsoir, c'est Jazz Libre sur Radio Libertaire 89.4 et DAB+ pour ceux qui en sont équipés. Ce soir, à la technique, exceptionnellement, Florence, notre camarade des cailloux dans l'engrenage, qui a bien voulu me dépanner parce que Laurent, qui d'habitude occupe le même poste, eh bien, a des obligations familiales. Donc voilà. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Vous avez également mon autre émission GMC+, Gabriel, Maurice, Claude et les autres, hein, qui est le deuxième jeudi. Donc la dernière fois c'était sur Debussy. Donc vous pouvez évidemment, vous devez même télécharger la souscription sur le site de la radio, radiolibertaire.net, de façon à nous aider pour maintenir le matériel, nous soutenir et maintenir une radio de qualité. Vous avez la possibilité de réécouter les émissions pendant 12 mois à partir de la fin de leur diffusion, et ce et vous pouvez également les télécharger, je vous le rappelle. Sur le site de la radio, vous avez l'ensemble des émissions, la grille des programmes, et vous pouvez donc à tout moment y vous balader. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr pour avoir des informations sur les morceaux, les playlists, etc., etc. J'ai évidemment ma page Facebook Yves Jazz Libre sur laquelle je mets essentiellement les informations sur les émissions avec les pochettes de disques, etc., etc., et les titres des morceaux et des playlists. Voilà. Je crois avoir tout dit en ce qui concerne l'émission. Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir en chair et en os, parce que nous l'avions déjà eu au téléphone il y a quelque temps, le musicien Christophe d'Alsasso, pour l'édition de son nouvel opus dédié aux trois quartets revisités, comme toujours, de Chick Corea. Le dernier opus sur lequel on l'avait interviewé était sur les sessions d'Africa Brass de John Coltrane. Éventuellement, on en reparlera. En attendant qu'il arrive... Alors, petite précision, je pense qu'il partira un petit peu avant la fin de l'émission, mais bon, c'est pas très grave, nous aurons le temps de bavarder, de discuter à bâton rompu sur son nouvel opus. En attendant, j'avais prévu un certain nombre de nouveautés. Il se peut malheureusement que nous n'ayons pas le temps de tout passer, et mais rassurez-vous, elles s'accumulent et... Et il y en aura beaucoup pour la prochaine fois. Alors, je voulais, lors de la dernière émission consacrée à Yann Garbarek essentiellement, vous passer un morceau d'un album de Miroslav Vitus. Alors, pourquoi je voulais vous le passer? Eh bien, voilà, parce que c'est un album assez étrange, avec un casting en or massif serti de diamants. Parce que il y a Miroslav Vitus à la contrebasse, évidemment, tout le monde le connaît, Yann Garbarek au soprano et au ténor, Chick Corea au piano, John McLaughlin à la guitare, Jacques Dejeunette à la batterie. Et alors on se dit, avec un casting de rêve comme ça, eh bien, ça doit être absolument extraordinaire. Eh ben non, en fait, justement, c'est là qu'est l'os. C'est pas parce qu'on a un bon casting que forcément la musique est géniale. Nonobstant, ça reste quand même d'un très très haut niveau, hein, il faut pas exagérer. Ce sont des musiciens qui se connaissent, qui ont tellement joué ensemble. Mais donc c'est un album qui est édité chez ECM. Hein, donc vous savez, ECM, ce sont ces très très belles pochettes d'albums dont on pourrait pratiquement carreler sa salle de bain, tellement c'est beau. Et avec aucune indication à l'intérieur. L'album date de 2003. Et donc, nous allons écouter un extrait de cet album qui est assez étrange, assez décousu et en même temps assez libre, assez planant. Enfin, c'est très, très, très étrange. Et le thème s'appelle Univoyage. Voilà, c'est parti, Florence. Thank you. Radio Libertaire 89.4 et DA+. Alors, donc voilà, hein, c'est Univoyage avec tous ces monstres. Et puis, en fait, on est dans une vision assez onirique, assez rêveuse, avec une absence de virtuosité dont on aurait pu penser qu'ils auraient sorti l'artillerie lourde de ce côté-là, mais non, pas du tout. Et c'est en ce sens que c'est intéressant, un peu déroutant, mais tout à fait étrange. Donc voilà, c'était pour le complément sur mon émission sur en spécial Yann Garbarek, qui est toujours parmi nous. Voilà. Alors nous allons maintenant quand même avoir le temps de passer peut-être une ou deux nouveautés. Nous allons, honneur aux dames, commencer par une musicienne qui s'appelle Adèle Viret, que je ne connais pas du tout, qui est violoncelliste et compositrice. Elle est accompagnée au piano Fender et à la voix par Wajdi Riahi, que je ne connais pas non plus, son frère à la trompette Oscar Viret, et Pierre Urti à la batterie. Alors voilà, un album assez, pareil, étrange. Alors, petite précision, l'album sortira le 11 octobre 2024, et puis il y a une série de concerts ensuite. Je vous donne les dates, le 6 novembre à Juan-les-Pins, le 12 novembre à Rennes, le 26 à Paris au Sunside, le 28 novembre à Amsterdam, le 29 à Bruxelles, le 30 à Liège. On redescend encore le 4 décembre à Valenciennes, et on redescend toujours le 5 décembre à Tourcoing, et on va un petit peu plus à l'ouest le 7 à Caen. Voilà. Nous allons donc découvrir ces musiciens avec leur univers très particulier, avec un thème qui s'appelle The Watchmaker, c'est-à-dire l'horloger. Alors évidemment, pour des musiciens, le tempo étant important, l'horloger est le gardien du tempo. Voilà, c'est parti. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4, voilà, évidemment avec, on retrouve toujours les tics, je dirais, habituels des Jones de maintenant, comme on dit, avec ces rythmes complexes, ces rythmiques, ces tourneries très particulières. Bon, voilà, c'est comme ça, mais bon, c'est intéressant, les musiciens sont de bons musiciens, et donc, ça, je vous propose que des choses nouvelles et différentes. Alors, on continue toujours avec les nouveautés, j'espère que nous allons pouvoir en passer au moins une. Il s'agit du batteur Benjamin Sanz, S-A-N-Z. Pareil, sorti le 11 octobre. Le concert au Sunside de présentation aura lieu le 7 novembre et le 6 février en Suisse. Alors, il y a Hermann Mehari à la trompette que nous avions déjà entendu dans cette émission. Ricardo Izquierdo également. Rob Clearfield au piano. Ricardo Izquierdo au sax ténor, évidemment. Luca Fattorini à la contrebasse, que je ne connais pas. Le titre de l'album s'appelle Black Seeds. J'ai oublié de vous donner le nom de l'album précédent, pardonnez-moi, mais ça s'appelle Close to the Water, tout près de l'eau. Et donc là, Black Seeds, hein, graines noires. Et donc nous allons commencer par un premier thème qui s'appelle Morning Song. Évidemment, comme nous sommes le soir, ça tombe très bien. C'est parti. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Alors c'est vraiment comme une horloge suisse. Notre invité Christophe d'Alsasso est arrivé dans le studio Et c'est un vrai plaisir de t'avoir en chair et en os, puisque la dernière fois qu'on s'était eu par liaison téléphonique pour l'hommage à Africa Brass, et donc c'est quand même plus sympa d'être dans le micro. Merci d'être là, Christophe.
C'est un grand plaisir.
Et en plus, avec ton accent, tu nous apportes le soleil, donc c'est absolument parfait. J'ai d'abord une première question. Comment va Pierre de Bettmann?
J'ai pas plus de nouvelles que ça. Voilà, bon, il est très fatigué, mais j'ai pas plus de nouvelles que ça. Voilà, j'espère que d'ici quelques temps, ça ira beaucoup mieux.
Bon.
Mince, il a pris quel micro, pardon, tu m'as pas dit.
Le bleu.
Voilà,
donc on va recommencer. Bonsoir Christophe, merci d'être là, ça nous fait plaisir avec le soleil de cette fin d'été radieuse qui change un petit peu. Donc la question c'était sur Pierre de Bettmann, puisque au concert de présentation il n'était pas là, donc voilà, je voulais prendre des nouvelles et donc...
Ben voilà, comme je te disais, il est fatigué encore, donc il se repose et j'espère que d'ici quelques temps, ça ira beaucoup mieux.
Ouais. Alors, je voulais juste que tu fasses un peu une présentation de qui est Christophe d'Alsasso, parce que peut-être tout le monde ne te connaît pas. Alors, tu es musicien, arrangeur, compositeur, tu as joué avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et alors, si j'ai quand même une question, t'étais trompettiste et passé à la flûte, qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi? Oui, j'étais trompettiste, j'ai commencé la trompette, j'avais 11 ans et demi, et il est arrivé, ce qui arrive souvent, pas souvent, mais ce qui arrive parfois à des instruments en bouchure, c'est-à-dire, on appelle ça une courbature de lèvres. Donc c'est une impossibilité à sortir un son de l'instrument au bout d'un certain temps. Et alors moi c'est pas arrivé comme ça d'un coup, ça a été un long processus douloureux qui pendant des années où je me faisais mal et jusqu'au jour où je réalisais que pour sortir un son de la trompette c'était un effort énorme et c'est surtout que j'avais très mal, donc mal aux muscles du visage, mal aux lèvres, mal au corps et je me suis dit bon là il faut arrêter. Et puis j'ai arrêté parce que je souffrais vraiment, j'avais vraiment des douleurs fortes et c'était impensable pour moi de pas jouer d'un instrument. Et ça fait longtemps que j'avais envie de jouer à la flûte. J'en avais un peu joué quand j'étais adolescent, quand j'avais 16 ans. Et il y avait une flûte qui traînait. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et voilà. Et en fait, comme le processus de la soufflerie, de la flûte est un peu... Il n'y a pas de pression. La trompette, on souffle dans un instrument. Il y a une pression qui nous revient dans le corps, qui est très très forte. Là, il y a vraiment... l'air part. Et ça m'a fait du bien, parce que c'était un peu ce truc voilà, de pouvoir lâcher, de pouvoir redétendre tous les muscles du visage. Et voilà, je peut-être qu'un jour je rejoue la trompette, mais j'y crois pas trop, malheureusement.
Oui, parce qu'en plus, ça peut rendre sourd. Hein,
il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes sur cet instrument-là. Un problème de puissance sonore, il y a un problème de pression dans la tête, quoi, qui fait que pas tout le monde peut supporter. Et moi, j'avais un peu de mal avec ça aussi. Et bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
Ouais, je connais bien, j'en ai fait aussi.
C'est vrai.
Je voulais changer du piano parce que je voulais un instrument monophonique. Enfin, quoi qu'on peut faire des harmoniques, mais c'est
oui, bon,
c'est un peu plus compliqué. Oui. Deuxième question, quelle est la folie qui t'anime de faire un big band en 2024?
Ah ben, le big band existe depuis 1998, donc c'est pas nouveau. En fait, quand j'étais élève au CIM, de 1990 à 1994 avec Yvan Julien, et on avait plein d'exercices, plein de devoirs, on travaillait beaucoup l'orchestration, les arrangements. Et je me suis dit, si je veux progresser, il faut que je monte en orchestre. Donc en 92, j'ai monté un petit big band à 3 trompettes, un trombone et 3 sax, une section rythmique. Et là, pour le coup, je jouais la trompette encore. Et donc j'ai essayé plein de choses. Ça a duré 2-3 ans. On a joué un peu dans les clubs à l'époque à Paris. Et on a fait le festival de Nice encore, aux arènes de Cimiez. Hein, ça existait encore à l'époque. Et voilà, après l'orchestre s'est dissout parce que c'était la rythmique du groove gang de Julien Leroux, en fait. C'était Daniel Bono Garcia et Jude Bicoco. Donc ils étaient tout le temps sur la route. Voilà, donc c'était compliqué de les avoir. Et puis tous les musiciens qui étaient dans l'orchestre commençaient à jouer à droite à gauche. Il y avait Jean-Christophe Benet, il y avait Olivier de Faïs aussi au baryton, il y avait un saxophoniste alto qui est parti aux États-Unis maintenant. Il s'appelait Cyril. J'ai perdu son nom, tiens, ça va. Cyril Guiraud, voilà. Et voilà, Michel Feugéen qui est un peu dans tous les big bands de France et de Navarre maintenant. Bon, voilà, tout le monde est parti sur la route et l'orchestre est dissous. Et puis, quelques années après, en 97, 98, j'ai recommencé à monter un vrai big band, pour le coup, à 4 trompettes, 4 trombones, 5 sax, où on jouait régulièrement au Duc des Lombards et puis après, on a joué au Sunset. Et puis j'ai remodulé l'orchestre en 2000 quand on a enregistré A Love Supreme 2001 avec 3 trompettes, quatre trombones tuba et 4 sax. Et puis après voilà, ça a resté à peu près dans cette formule là où des fois j'en avais une trompette, j'en rajoute, ouais, selon les projets, je tourne autour de cette formule là de trompettes, de trombones, 3 à 4 sax, voilà.
Mais depuis Africa Brass, c'est quasiment les mêmes musiciens qui sont assez fidèles, en fait.
Alors, c'est les mêmes musiciens depuis, en fait, 2005, où on a enregistré en honnête avec Dave Lindman pour le label Nocturne à l'époque. Et c'était la même rythmique, pratiquement. Donc, il y avait Pierre de Bettman au piano, il y a toujours Manu Marchez à la basse. À l'époque, c'était Franck Agulon à la batterie, maintenant c'est Karl Januska. Après, David Elmalek, Thomas Savi et Jerry Edwards sont là depuis le début. C'est des piliers de l'orchestre. Et après, j'ai enregistré un autre disque en 2009-2010 qui s'appelait Prétexte. Pareil, 2 trompettes, 2 trombones, 3-4 sax. Pareil, avec David, il y avait Sophie Allour, Thomas Savi. Toujours les mêmes, quoi. Voilà. Et depuis, ça tourne un peu, mais il y a une structure, une ossature de l'orchestre qui est identique depuis à peu près une bonne quinzaine d'années, quand même.
Et avec Rick Marchizza au ténor.
Oui, Rick. Alors là, sur le dernier projet, c'est Rick qui est arrivé. Et Stéphane Guillaume aussi, avec qui j'avais jamais travaillé. Alors Rick, parce que c'est le lien direct entre Chick Corea et nous, c'est le lien direct avec cette musique-là et tous les musiciens avec qui il a joué, soit Miles Davis, il a enregistré et joué avec Chick Corea aussi. Donc c'était le lien direct. Et Stéphane Guillaume, parce que c'est un multi-instrumentiste incroyable qui est capable de jouer autant aussi bien de la flûte que du soprano, que du ténor ou d'autres plein d'instruments. Mais bon, là pour le coup, il n'en joue que 3 avec moi. Et c'est un plaisir de jouer avec lui, quoi.
Alors je peux que réitérer mon enthousiasme pour le concert qu'il y a eu dans ce petit club de parisien où
tout le monde était serré.
Tout le monde était très très serré. D'ailleurs, ça mériterait plus d'ampleur. Je trouvais que chacun avait sa place, même ceux qui ne prennent pas de solo. Et je pense notamment à Thomas Savi à la clarinette basse, où la couleur sonore est vraiment essentielle. Enfin,
Alors Thomas, c'est un des seuls projets où finalement il prend pas de solo. Sur le disque, il prend un solo parce que c'est un solo collectif sur Folk Song. À la fin, il y a un collectif de musiciens ou de sax, de tous les sax et Thomas participe aussi à la clarinette. La couleur de la clarinette, elle est hyper importante dans ce projet parce que c'était vraiment 3 ténors. Donc 3 saxophones vraiment identiques et la clarinette et moi la flûte, on est aux extrêmes aigus et extrêmes graves. Du coup, ça donne une rondeur et une clarté aux 3 saxophones ténors. Voilà, c'est un choix orchestral que j'ai fait parce que j'adore la clarinette basse déjà et puis j'adore Thomas Savi, c'est vraiment un ami et il a un son de clarinette basse vraiment énorme, c'est vraiment il fait vraiment le lien entre tout, quoi.
Alors juste une petite remarque sur l'introduction du texte de la pochette. Il est dit, alors je prends mes lunettes parce que arrivé à un certain âge, c'est toujours pareil. Le travail d'arrangeur, bon, on va en parler, mais c'était surtout le fait que c'était quelque chose qui n'existait pas ou très peu dans la musique classique. Alors,
c'est-à-dire, parce que
là, voilà,
je connais pas les liner notes par cœur.
Non, mais c'est voilà. Je vais lire le travail d'arrangeur tel qu'il s'envisage dans le jazz est une étrange position qui n'a pas véritablement d'équivalent au sein des autres expressions musicales. Ce rôle n'existe pas dans la musique classique occidentale où la position supérieure du compositeur prohibe rigoureusement la transformation d'une œuvre en dehors du cadre strict de l'orchestration, qui ne fait que modifier son apparence.
Oui.
Alors. Je pense notamment quand même au travail de Debussy sur les compositions de Satie.
Oui, mais
ça reste exceptionnel.
Voilà, ce sont des œuvres exceptionnelles que Debussy sur Satie ou Ravel ou voilà. C'est vraiment le compositeur classique. Il est vraiment lié à sa musique. Donc il compose, il range, il orchestre. C'est le compositeur qui fait tout. Dans le jazz, c'est vrai qu'il y a souvent cette distinction bien particulière qui est de l'arrangeur pour un grand orchestre. Dans toute la tradition du jazz depuis les années 20, il y a ce truc-là. Gil Evans est arrangé pour l'orchestre de Claude Tornil. Samy Nestico arrangé pour l'orchestre de Count Basie sur des standards ou sur de la musique traditionnelle. Voilà, il y a toujours cette façon de prendre la musique d'un autre et de la remanier à sa façon pour la distribuer à un grand orchestre. Ça fait partie de la tradition du jazz. C'est vrai que c'est assez particulier à cette musique-là, ouais, tout à fait.
Oui, parce que les arrangements en variété, par exemple, c'est...
Les arrangements en variété, c'est un autre travail. Alors moi, je peux pas dire que j'ai jamais fait, mais je l'ai fait un tout petit peu. Après, c'est un travail bien particulier sur lequel je m'y retrouve pas spécialement. Donc voilà, donc on m'appelle pas pour ça. Et puis j'ai pas fait la démarche pour le faire. C'est un autre travail, c'est un travail de recomposition d'une chanson ou de, en tout cas, de la retravailler d'une certaine façon pour la mettre au goût du jour. Et ça, voilà, ça, il faut être dans les créneaux, il faut être dans le truc à la mode, quoi.
Oui,
bon, voilà, c'est un autre job que je sais pas très bien faire, en fait.
Ouais, non, il y avait Alain Goraguer qui avait fait ça.
Oui,
je comprends.
C'est surtout ça. Voilà.
Il y avait Alain Goraguer qui faisait ça dans les années 50-60.
Ouais. Mais après, les arrangeurs français qui font ça à l'heure actuelle, ce sont des très grands musiciens. Je pense à Pierre Bertrand, qui est un excellent musicien, qui travaille beaucoup avec tout le monde de la variété, ça n'empêche pas. Après, voilà, c'est chacun trouve son plaisir et trouve son bonheur là où il peut.
Alors, une autre question, puis après, on va peut-être écouter un extrait, enfin, pas un extrait, mais un morceau. Ça prend combien de temps pour arranger autant de choses pour autant de musiciens qu'on va nommer dans un instant?
Alors, ça prend un certain temps. Non, je compte pas, mais ça prend du temps, oui, parce que ça prend du temps. Il y a tout un processus que j'utilise, je pense qu'on est, je suis pas le seul à le faire, mais qui est ce processus de relever la musique déjà, c'est-à-dire écouter le disque, écouter l'original et transcrire ce que j'entends sur du papier à musique. Donc, une fois que j'ai fait ce travail-là, qui est déjà assez long, parce que après chacun va à sa vitesse. Moi, je suis pas quelqu'un qui va très vite pour ça, donc je le fais, j'arrive au bout au bout, et une fois que j'ai fait ce travail là il me faut un moment de réflexion et un moment de où il faut que je laisse mûrir ce que j'ai entendu, ce que j'ai relevé, et après je commence à réfléchir et à essayer d'imaginer comment ça peut sonner. En fait, le travail d'arrangeur, il se fait dans la tête d'abord, entendre le son, donc c'est pour ça que c'est très important de relever et de transcrire la musique. Une fois qu'on est imprégné du son, moi je connais mon orchestre, je connais mes solistes, je connais comment les musiciens jouent, et j'imagine et j'essaie d'entendre dans ma tête ce que ça peut donner. Et une fois que j'ai à peu près quelque chose de mur dans un petit coin de mon cerveau. Bah, je me mets plus sur le papier, parce que je travaille plus sur le papier, mais je me mets sur l'ordinateur et je commence à arranger et à mettre toutes mes idées en pratique. Et souvent, le travail d'arrangeur fait que ça se modifie souvent, tous les jours. Et donc, pour arranger un disque comme ça et le relever, c'est 3-4 mois de travail quand même, intense. C'est-à-dire, quand je dis intense, c'est des journées de 10 à 14 heures, non-stop, pratiquement, quoi. Juste pour déjeuner et faire ce qu'on doit faire.
Et faire une escale technique.
Voilà, non, mais c'est des grosses journées de travail. Alors, moi, j'aime pas travailler la nuit, comme certains. Je travaille de tôt le matin, de 7-8 heures le matin jusqu'à 9-10 heures le soir. Mais après, j'ai du mal, après, vraiment. Mais voilà, donc c'est vraiment des journées, des grosses journées, quoi.
Et puis travailler sur écran, au bout d'un moment, ça
fatigue.
Ça crève les yeux. Hein. Ouais. Alors, on va donner le nom des musiciens, parce que c'est quand même important. Alors, il y a Christophe Dalsasso à la flûte et à la direction musicale. David Elmalek au saxophone ténor, énormissime. Stéphane Guillaume au saxophone ténor, soprano, flûte, non moins énormissime aussi. Rick Marghizza, dont on a parlé, qui d'ailleurs, enfin bon, je referai un truc là-dessus. Thomas Savy, clarinette et clarinette basse. Nicolas Folmer, trompette et bugle. Christian Martinez à la trompette, Denis Leloup au trombone, qu'on retrouve dans plein d'orchestres, dont oui. Notamment celui de Karine Bonnefoy, de Leila Olivesi,
partout.
Jerry Edwards au trombone également, Pierre de Bettman donc dans ce disque au piano, qui a été remplacé par
Hervé
Sélin lors de du concert de présentation. Manuel Marchès à la contrebasse, c'est Karl Januska à la batterie, excellentissime batteur, batteur de big band et
pas que.
Non, mais vraiment.
C'est un anglophone, donc il a cette tradition de. C'est même pas un anglophone, c'est quand même un Américain parce qu'il est canadien.
Il est canadien, oui.
Canadien de Toronto, donc il est anglophone, mais il a fait ses études à la Nouvelle-Orléans et il avait ses études musicales à la Nouvelle-Orléans et il a vraiment cette culture de la batterie jazz américaine. Voilà, c'est pour moi un grand batteur qui est capable de jouer autant en big band qu'en petite formation, que dans des projets pop, rock. Il a un éventail énorme et c'est vraiment un plaisir de jouer avec lui, mais vraiment un grand plaisir.
Non, mais en plus, on sent qu'il est très très à l'écoute, très concentré, enfin très dans le.
Ah oui, il est investi pleinement dans ce qu'il fait.
Voilà. Dedans, quoi. Alors, je suis désolé, j'ai plein de questions, Christophe. Donc, après Coltrane, pourquoi Chick Corea? Est-ce que c'est le fait de sa disparition récente, ou c'est le fait du hasard, ou une grande envie, ou quelque chose qui...
Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste une commande de la Philharmonie de Paris.
Ah, d'accord.
En 2022. Voilà, c'est sur une idée de Vincent Bessière. La Philharmonie qui a demandé à Vincent un projet en grand orchestre sur transcrire un quartet de jazz en grand orchestre et des pièces qui seraient construites comme de la musique classique. Bon, il y a A Love Supreme qui est construit comme ça parce qu'il est construit en quatre mouvements mais ça avait déjà été fait. Après, des pièces qui sont construites comme de la musique classique avec trois ou quatre mouvements, il y en a pas tant que ça dans les musiciens de jazz connus. Et donc il a retrouvé ce disque-là. Il me dit, tu te rappelles de Free Quartet? Je dis, oh là là, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté ça. Et il me dit, ouais, ce sera intéressant d'essayer de retranscrire ça en big band. Et je dis, écoute, je vais écouter et je vais me replonger dans ce disque-là. Et je te dis, donc j'ai réécouté le disque et je me suis dit, ouais, effectivement, on peut s'amuser à faire quelque chose en big band. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a aucune partition qui existe de cet enregistrement. Voilà, sur tout le disque, il doit exister deux partitions écrites de la main de Chick Corea, trouvées péniblement sur le net, sinon il n'y a pas grand-chose. Donc là, j'ai vraiment été obligé de tout retranscrire pour pouvoir avoir de la matière.
Galère. Donc,
voilà. Oui, non, bah, c'est, de toute façon, je retranscris quand même, même quand il y a des partitions, je, bon, ça me sert de support, mais c'est vrai que je retranscris beaucoup. Et donc, voilà, donc je dis, ben, écoute, allons-y, et puis on verra bien où ça nous mène, cette histoire. Et, donc voilà, donc on a fait la création au mois de novembre 2022 à la Philharmonie, avec exactement le même orchestre. Et puis on s'est tellement régalé, je me suis dit, bon, c'est dommage de faire ça pour un concert, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve des sous qu'on enregistre. Et on a enregistré, et puis du coup, on a fait quand même pas mal de concerts depuis. On a fait une bonne dizaine de concerts, il y a d'autres trucs qui arrivent. On joue à Monaco le 21 novembre pour le Festival International de Monte Carlo. On fait la première partie du Camp de Béziers Orchestra. Voilà. Oh. C'est drôle.
Étonnant. Je suis désolé, je suis un peu bavard, mais est-ce que ça nécessite beaucoup de répétitions pour mettre en place
un répertoire comme ça? Alors, beaucoup de répétitions, non, parce que ce sont tous d'excellents musiciens qui lisent très très bien la musique, qui comprennent très vite où va la musique. On a quand même répété pour la Philharmonie 2 jours pleins. Donc on a fait 2 services par jour, on a fait quand même 4 répétitions, plus la générale et le concert. Et après, c'est une musique qui doit se jouer en concert pour mûrir. On a fait peut-être 2 ou 3 répétitions. On a répété une journée pleine avant d'enregistrer le disque. Et pendant l'enregistrement, on répétait. Donc la musique, elle a encore mûri. L'enregistrement, ça nous a fait encore passer une étape parce que ça fait mûrir l'orchestre, ça le soude au niveau du son et au niveau de la façon de jouer tous ensemble, même si ça fait très longtemps qu'on joue ensemble, mais du coup, comme il y a toujours 1 ou 2 éléments extérieurs, il faut retrouver une cohésion d'ensemble. Et après, les concerts qu'on a fait là, après le sunset, avant le sunset, voilà, c'est là où l'orchestre se forme vraiment, quoi. Mais bon, en termes de répétition, c'est pas si énorme que ça. Il faut répéter, parce qu'on peut pas lire certaines musiques à vue, c'est pas possible. Mais voilà, avec 4 répétitions, on s'en sort bien, quoi.
Et est-ce que entre ce qui est écrit et puis ensuite le fait de faire vivre la musique, il y a des petites modifications, des ajustements qui s'opèrent?
Alors, il y a toujours des ajustements, parce que quand je suis tout seul chez moi en train d'écrire la musique, j'ai une idée bien précise de ce que je veux, et puis à l'arrivée, c'est toujours pareil. Il y a toujours des moments où on ajuste. Alors, on a, sur ce programme-là, on n'a pas tant ajusté que ça, parce que j'ai gardé pratiquement la trame originale de ce que Tchikora avait composé, sauf un morceau, Free Quartet numéro 3, où David voulait jouer autre chose. Donc on a modifié un peu on n'a pas modifié la grille. On a tronqué la grille. Voilà. On l'a gardé, mais on a tronqué la grille de solo. Parce que la grille de solo, elle est très fermée. Et comme il y avait déjà un solo sur la grille de Denis Leloup, on a voulu trouver une autre solution pour que ça s'ouvre. Mais sinon, non, j'ai pratiquement pas beaucoup changé de choses. Juste dans le jeu, de ralenti, d'étirer la musique un peu plus. Mais pas changer vraiment la structure, pas changer de notes spécialement. Ou de formule rythmique, on a, ouais.
Et alors, dernière question avant d'écouter, là, promis. Est-ce que tu es un chef d'orchestre dictateur, je dis entre dictateur entre guillemets, c'est-à-dire très déterminé, ou par exemple, si un des musiciens te fait une proposition en disant, bah là, ce serait peut-être mieux de faire comme ci ou comme ça.
Alors. Entre deux. C'est-à-dire que je suis ouvert tout le temps aux propositions. De temps en temps, ils en font. Et je suis preneur de quand ça va dans le sens de la musique et quand je sens que ça apporte quelque chose. Il y a eu des fois où, pas sur ce projet-là, mais sur d'autres projets, où on a beaucoup discuté, où c'est parti d'un peu dans tous les sens. Et quand ça va trop loin, où on ne s'y retrouve pas, je mets un point d'arrêt, je dis non, on arrête tout, on va faire ça comme ça, comme ça et comme ça. Mais je suis ouvert aux propositions, ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que des fois, les propositions des musiciens sont les bienvenues. Bah, ils ressentent la musique aussi, ils ont besoin parfois de dire qu'ils ne sont pas à l'aise là, on pourrait faire ça comme ça, ou on pourrait faire ça comme ça. Et je les écoute.
Bon, c'est bien. Alors, on va écouter le premier quartet numéro 1, Florence, quand tu es... Et c'est parti. avec tu me diras qui prend le
Vassuolo.
Voilà. C'est parti, Florence. We'll be right back. libre, Radio Libertaire 89.4. Alors je vais commencer par la question qui tue, c'est la question que je pose à tout le monde à chaque fois dans ce studio. Elle est bateau, hein. Ne t'attends pas à un truc pourri. Qu'est-ce que ça fait de se réécouter ?
Ah, des fois ça fait du mal, mais là ça fait du bien. Non, c'est vrai qu'on a, on n'aime pas s'écouter. Parce que on n'aime pas s'écouter, c'est comme ça. Mais j'aime bien j'aime beaucoup ce disque parce que je trouve que c'est un disque qui est vraiment réussi. C'est dur de dire ça parce que ça fait très prétentieux, mais en fait,
pas du tout.
Non, mais ça peut. Mais je suis au dixième quand même album, donc j'ai un peu de recul par rapport à tout ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est un disque, je trouve, qui est vraiment très réussi à tous les niveaux. Voilà, l'orchestre joue vraiment très très bien, les solos sont superbes, la prise de son elle est belle, le mixage il est pas mal, le mastering est superbe. Voilà, il y a toute la chaîne de production a été réussi, et ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Il y a des disques que j'ai fait où je ne suis pas content, et c'est pas pour ça que je ne les aime pas, mais où je ne suis pas content. Celui-ci, je suis très fier. Il y a un deuxième disque que je suis très fier aussi, qui est passé un peu sous les radars, c'est un disque que j'ai fait il y a quelques années, qui s'appelle Les Nébuleuses. C'est un quintet de jazz et un trio à cordes, et je trouve que c'est un très très beau disque aussi, mais bon, on n'a pas fait beaucoup de concerts, c'était une période un peu particulière, bon voilà, c'est comme ça. Mais celui-ci de disque, ouais, je suis assez fier d'avoir fait.
Eh bien nous aussi, on est très contents de l'avoir. Alors, j'ai deux questions, enfin une remarque qui est, là on entend dans le quartet vraiment la patte de Chick Corea. Enfin, c'est bizarre, mais ses compositions se reconnaissent, je trouve. Et là, c'est pas une trahison, c'est une sublimation, je trouve, de ce que c'est.
Ah, merci, c'est vraiment gentil. Je sais pas si c'est une sublimation, mais je suis toujours très respectueux du texte des compositeurs.